maths dans un lycée à Marseille. Et puis j'ai fait un peu de recherche en astronomie il y a une dizaine d'années.
Julie Patrice, je suis enseignante à l'université Aix-Marseille 3 en physique et astrophysique et j'ai fait une thèse d'astrophysique.
Alors à propos d'astronomie ou d'astrophysique, on pourrait peut-être commencer par parler de l'univers et de sa régularité. On a longtemps pensé que l'univers tournait comme une horloge, du moins de nombreuses explications du monde partaient de ce postulat d'une régularité. En fait, la science moderne tend à démontrer que l'univers n'est pas si régulier que cela. Est-ce que ça signifie qu'il est chaotique ou potentiellement chaotique ?
En fait, l'histoire de la stabilité de l'univers, c'est une bonne histoire jumelle de l'histoire des sciences. Et en fait, cette idée de à l'heure actuelle, on voit ça comme chaotique et avant, on voyait ça comme régulier. En fait, c'est beaucoup plus un échange qui s'est fait à travers toute l'histoire de l'astronomie entre justement régulier et irrégulier, et avec le dernier prolongement qui serait chaotique. Dès le début de l'astronomie, et dès le début de toute science, on va dire, on commence par essayer de comprendre les choses et on essaie de comprendre les choses qui sont justement régulières, qui reviennent, qui sont stables, que ce soit en biologie sur les espèces ou des choses comme ça, on essaie de comprendre. Et en fait, dès le début, les Grecs ou les Babyloniens avant ont essayé de comprendre qu'est-ce qui, dans l'univers, était stable. Et puis on s'est rendu compte que les étoiles, elles forment des constellations qui sont fixes dans le temps, qui ne bougent pas, donc on les retrouve jour après jour, nuit après nuit, et puis saison après saison. Et par contre, à l'intérieur de ces constellations, il y avait quelques petits points lumineux qui bougeaient. Qui avait justement un comportement, on va dire, irrégulier. Maintenant qu'on connaît qui sont les planètes, hein, Jupiter, Saturne, Vénus, Mars, surtout, Mercure aussi. Et on s'est rendu compte que ces planètes, elles bougeaient, la Lune aussi, qu'il y avait des changements, etc. Et donc on a essayé de comprendre ces changements. Au début, on voit ça comme un truc irrégulier. Puis assez rapidement, on se rend compte qu'ils ont finalement des comportements assez réguliers. Ils décrivent tous un cercle dans le ciel. Et puis petit à petit, à travers les recherches essentiellement des Grecs, on s'est rendu compte que cette régularité des cercles que décrivaient les planètes, elle n'était pas si régulière que ça. Et donc on a tout le temps une espèce de dialectique entre régulier et irrégulier, les planètes qui décrivent des cercles, puis un autre petit cercle sur ce cercle, puis des petits cercles sur ce cercle, etc., etc., jusqu'au moment où ça a craqué et où il a fallu remettre en cause tout ça et retrouver une autre forme de stabilité. Et ça, c'est Kepler qui voit déjà Copernic qui remet le Soleil au centre, et puis surtout Kepler qui voit que les trajectoires des planètes sont des ellipses.
Mike, in the meantime, you have a go to pull the NTA out and attach it to ESP3, and then you're going to translate.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the truss so you can relax a little bit with it.
Okay.
Irrégularité au chaos, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre en astronomie ?
Alors, j'aimerais un peu définir peut-être ce dont on est en train de parler. Je parlerai moins de l'univers qui était peut-être le mot qu'on lui donnait à une certaine époque que du système solaire pour l'instant, pour essayer de cadrer un petit peu la question scientifique. et de dire qu'effectivement, ça a été une régularité qui a frappé les premiers scientifiques, mettant en Mésopotamie, et puis c'est aussi l'irrégularité qui les a frappés. Je dirais que maintenant, en tout cas, disons, à partir du XXe siècle, il y a eu une théorie mathématique du chaos qui a été très intéressante, qui évolue notamment grâce à la modélisation informatique actuellement, et qui permet de faire des choses qui sont beaucoup plus mathématisées sur un point qui, avant, tenait du non prédictible. Maintenant, on a des outils mathématiques qui font qu'on commence à pouvoir ranger, classer, comprendre une certaine partie du chaos, ce qui serait par exemple la trajectoire des planètes qui nous entourent.
Des trajectoires non prédictibles qui seraient de nature chaotique, est-ce que vous avez des exemples en astronomie à nous citer ?
Avant de rentrer dans des exemples un peu plus précis, le système solaire, dans son ensemble, est un système chaotique.
Franck Malige.
Dans le sens où il est difficile de prévoir exactement la position des planètes dans le système solaire dans 150 millions d'années, 1 milliard d'années. On peut très bien le faire dans 100 ans, par exemple, on sera pratiquement, à la dizaine de mètres où seront les planètes, où seront leurs centres de gravité dans 100 ans. Et on sait prédire ça. Ce qui se passe, c'est que si on a des petites irrégularités, enfin des petites imprécisions au départ, qui ne manquent pas d'avoir, on n'a pas exactement la masse de la Terre, on n'a pas exactement la masse de Jupiter, on n'a pas exactement la position de Jupiter au centimètre ou au millimètre près, on va avoir ces petites imprécisions qui vont petit à petit exploser. C'est ce qui est résumé par ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc un tout petit changement à un endroit, le fait que je m'approche plus ou moins du micro maintenant, va faire que dans 1 milliard d'années, on va avoir des conséquences macroscopiques au niveau du système solaire.
De ce point de vue-là, l'astronomie et l'astrophysique rejoignent la physique avec cette idée que le chaos dépend d'une hypersensibilité aux conditions initiales d'une trajectoire.
Oui, moi je pense que c'est une bonne idée de donner cette définition physique, puisque finalement on est sur un problème
Julie Patrice.
Où on a des équations qui sont déterministes au sens où si on a exactement le point initial, on peut déterminer n'importe quel point de la trajectoire, et que finalement le problème c'est la détermination du point initial, qui est par définition imprécise, parce qu'une précision infinie, on ne sait pas ce que ça veut dire en physique. Donc effectivement, ça, ce serait la bonne définition, en tout cas celle qui nous intéresse scientifiquement parlant du chaos. Et à partir de là, moi je suis d'accord sur ce retour vers la physique, puisque c'est effectivement, on va rentrer pas seulement dans l'astronomie de position, mais aussi sur plein de domaines de la physique. Et pour citer donc quelques exemples de systèmes chaotiques, qui sont, à mon avis, relativement parlants. Il y en a un qui est l'axe de rotation de Vénus, qui est frappant parce que Vénus, comme tout le monde, tournait dans un certain sens autour d'elle-même. Et actuellement, on a constaté qu'elle tourne dans un sens qui n'est pas du tout logique par rapport aux autres planètes. Et la seule explication qui a pu apparaître mathématiquement parlant, c'est que son axe s'est retourné. Donc il y a eu un effet non stable qui fait qu'à partir d'un petit mouvement autour de son axe, finalement l'axe a complètement basculé, un peu comme on pourrait imaginer certaines toupies qui se retournent à partir d'un moment de leur rotation. Et pour faire un parallèle avec quelque chose qui serait plus physique, au sens où c'est des phénomènes qui ne sont pas que de la mécanique, le champ magnétique terrestre, c'est un système instable, chaotique, qui est compris, mais qui est tellement dépendant de beaucoup de systèmes qu'on n'arrive pas à prévoir exactement comment ça va se passer. Il est relativement connu que ce champ magnétique terrestre s'est inversé au cours de l'histoire et que d'ailleurs on est peut-être à la veille d'un nouveau changement de polarité du champ électromagnétique terrestre.
Thank you.
Nothing is like anything else. Everything's the same. Progress punctuated by a series of coincidences to form a logical chain.
Dans notre système solaire, est-ce que cette planète Vénus est la seule qui ait eu ce comportement de retournement tout à coup de sa trajectoire ?
C'est la seule qui vraiment est complètement pivotée à l'envers.
Franck Malich.
Je crois que c'est Uranus, qui est une planète qui a son axe qui s'est basculé à 90 degrés. Donc à l'heure actuelle, elle tourne, son axe de rotation est pratiquement compris dans le plan de révolution. Bon, c'est des choses qui sont encore en train d'essayer d'être expliquées. En fait, un des gros trucs qui est intéressant en astronomie, c'est que l'extrême complexité et la richesse du système solaire, par exemple, donc avec énormément de planètes différentes, gazeuses, terrestres, etc., des trajectoires très très différentes, tout ça tient dans très peu d'équations, qui sont les équations de Newton, hein, qu'a trouvé Newton, et qui sont des équations vraiment déterministes, comme disait Julie, c'est-à-dire des équations très faciles à formuler, mais en même temps, trouver les solutions de ces équations se révèle un problème extrêmement ardu et difficile et générateur de comportements chaotiques.
Et puis peut-être toujours dans notre système solaire ou alors à sa périphérie, on imagine que les astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes par exemple, pourraient tout à fait relever d'un type de trajectoire ou de fonctionnement chaotique.
Oui, alors c'est pas vraiment aux confins du système solaire, c'est au milieu, c'est bien placé, entre Mars et Jupiter essentiellement.
Julie Patrice.
Les astéroïdes sont particulièrement soumis à des trajectoires chaotiques. Simplement, en parlant physiquement et de façon assez simple, quand il y a deux corps en interaction, deux corps massifs en interaction, le problème est complètement résolu et il n'y a pas de chaos. À partir du moment où on introduit un troisième corps, on appelle ça le problème des trois corps, et c'est un problème historique qui date de Newton. À partir du moment où les équations ont été mises, tout de suite on a identifié le problème. À partir du moment où il y a trois corps, on a cette extrême sensibilité aux conditions initiales. Et naturellement, quand on parle de Jupiter et du Soleil, on peut se dire que, étant donné leur masse, les objets autour peuvent être négligés. L'influence que va avoir Mars sur Jupiter peut être négligée quand on va calculer la trajectoire de Jupiter. À partir du moment où on parle d'un petit objet entouré de beaucoup de ses semblables et soumis au champ gravitationnel de planètes qui sont autour, on ne va pas pouvoir négliger l'influence de Mars, l'influence de Jupiter sur les astéroïdes. Et on ne va pas pouvoir considérer qu'on a un système simple entre l'astéroïde et le Soleil autour duquel il tourne. Donc c'est un bon exemple, par sa taille, de système chaotique.
Des trois corps résolu par Poincaré, qui a été l'initiateur quelque part de toute la théorie du chaos. On a pour l'instant évoqué des petits corps célestes, des planètes ou des astéroïdes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un soleil puisse être chaotique ?
En fait, dire qu'un soleil est chaotique, c'est un peu équivoque. C'est-à-dire que ce qu'on entend par chaotique, c'est des trajectoires d'un système, les trajectoires des planètes, comment elles bougent. Dire que le Soleil est chaotique, ça veut dire que soit son mouvement est chaotique, soit que son devenir est chaotique.
Son mouvement dans un ensemble, une constellation par exemple, est-ce qu'il peut être chaotique? Et puis, son fonctionnement lui-même, est-ce qu'à un moment, il peut avoir un comportement tout à fait étrange, par exemple, cracher au loin sa matière ou avoir des manifestations d'énergie qui sont totalement imprévisibles?
Alors, pour ce qui est de la position, on a un certain nombre d'étoiles qui se trouvent dans des systèmes multiples. Système double, ça va, on est dans un cadre classique de système à deux corps, mais à partir du moment où qu'on est dans un système triple, il va y avoir des mouvements chaotiques, c'est clair. Pour nous, ça nous touche relativement peu, parce que ce sont des objets relativement lointains, mais ça va être très intéressant à étudier, et notamment les interactions entre les différents corps. D'autant plus qu'elles sont de masses voisines, et qu'éventuellement, il va y avoir des transferts de matière d'une étoile à l'autre. Pour ce qui est de la physique qui est à l'intérieur, est-ce qu'il peut y avoir des éjections qu'on ne prévoit pas? Ça, c'est évident, et à la limite, je dirais que c'est surtout que la physique est très compliquée à l'intérieur. On sort d'un cadre où on a une loi très simple et un chaos qui vient d'une équation qui, dans son extrême simplicité, est très sensible aux conditions initiales. On entre dans un domaine où la physique du corps est très complexe, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a un champ magnétique qui ne va pas être du tout régulier, qui ne va pas du tout être stable. Ce qui fait qu'effectivement, on arrive à une situation où on ne peut pas prévoir quand il va y avoir une éjection de masse coronale, par exemple, un phénomène qui est relativement étudié en ce moment, parce que la physique est très très compliquée derrière, et qu'il nous faudrait extrêmement un nombre extrême de données pour réussir à prévoir à chaque instant ce qui va se passer.
Une étoile qui peut à un moment naître, qui peut à un moment mourir, ça nous amène à poser par rapport au chaos en astronomie ou en astrophysique cette question de l'origine. Peut-être tout à l'heure on posera la question de la fin. La question de l'origine, elle est posée par le mythe, puisque chaos, après tout, ce terme, presque on pourrait dire ce personnage de chaos, il est inventé par la mythologie grecque et il représente une sorte d'état initial de l'univers juste avant sa création. Alors est-ce que dans les théories scientifiques de création de l'univers, par exemple celle qui fait intervenir le Big Bang, eh bien on a la manifestation de quelque chose qui pourrait être le chaos?
Alors moi je voudrais réagir sur le thème de création qui est un petit peu
Julie Patrice, à
utiliser avec des pincettes quand on parle de l'univers, naturellement, parce que la théorie du Big Bang a été très, très souvent assimilée donc à une création. Je pense que c'est beaucoup plus correct, scientifiquement parlant, de la percevoir comme un état limite quand on remonte dans le temps. Ce qui est beaucoup moins facile, beaucoup moins proche du mythe des Grecs, mais beaucoup plus correct et qui évite des fausses routes qui peuvent être totalement non scientifiques, on va dire. Est-ce qu'on peut définir les états primordiaux de l'univers, si on le dit comme ça, comme des états chaotiques? L'univers avait tendance à être finalement plutôt plus simple dans ses premiers instants, dans les instants qui suivent le Big Bang, parce que ayant moins de composants, donc finalement peut-être relativement plus facile à étudier, à décrire. Et peut-être que le chaos qu'on peut identifier à ce moment-là ne serait pas le chaos du système à trois corps, mais serait une variation d'état quantique et qui fait intervenir de la physique, là aussi, assez complexe, avec, par définition, une certaine variabilité de l'état défini par une fonction quantique. Moi, si on cherche du chaos dans ces instants-là, on peut l'appeler comme ça, en étant assez loin de la définition du chaos, comme extrême sensibilité aux conditions initiales qu'on a définies tout à l'heure.
Mais est-ce qu'on est encore dans le chaos? Ou est-ce qu'on est vraiment là sur quelque chose qui est un peu marginal dans la définition vraiment stricte du chaos?
comme chaque terme, on peut lui donner plusieurs définitions. Moi, je définirais pas le chaos comme ça. Je définirais le chaos plus comme une loi relativement simple, mais extrêmement sensible aux conditions initiales. Et dans ce cas-là, ça s'applique pas vraiment aux instants initiaux de l'univers.
On a plus on remonte dans le temps, donc plus on va vers l'origine de l'univers, cette limite qu'on appelle le Big Bang. L'univers devient chaud, plus l'univers devient dense, plus l'univers devient homogène.
Franck Malige.
Et donc il devient dans un sens effectivement comme dit Julie plus simple. Et en fait, c'est aussi, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que ce sont des petites variations, justement au niveau quantique, donc au niveau de l'extrêmement petit, des toutes petites variations, qui vont faire que l'univers est, à l'heure actuelle, pas homogène. Et donc, il y a une espèce de... effectivement, aussi, un petit, on pourrait dire d'extrême sensibilité aux conditions initiales, qui sont extrêmement ténues. Il faut le voir vraiment comme quelque chose de dense, d'homogène, d'énergétique, qui va avoir des toutes petites variations et qui vont engendrer après des macrostructures comme les galaxies et nous. Et voilà. Donc on pourrait le voir comme ça, mais encore une fois, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. On parle pas de trajectoire, encore une fois, on parle d'autres choses, quoi. Plutôt de structure interne que de mouvement externe.
À la fin, on vient d'évoquer comment la science répondait au mythe de la création. Un autre mythe, vraiment longtemps et maintes fois répété, c'est celui de la fin programmée de l'univers. Une fin évidemment chaotique, entre guillemets. Le terme de chaos est sûrement utilisé pas du tout dans le sens scientifique. On a à toutes les époques prédit que l'univers allait périr dans les flammes, ou en tout cas s'effondrer à un moment donné. Il paraît qu'en 2012, ça va encore être le cas. Alors est-ce qu'on peut imaginer que notre univers, celui qu'on connaît, celui que la science connaît, puisse à un moment se terminer? Et est-ce que cette fin serait selon un processus chaotique?
Alors le modèle qui marche le mieux en ce moment d'évolution de l'univers, donc qui est le modèle du Big Bang, prédit plutôt un refroidissement, c'est-à-dire que tous les astres ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Une étoile qui vit rejette une partie de sa matière dans l'univers de façon à ce que d'autres étoiles naissent, mais les naissances d'étoiles sont en diminution, et c'est quelque chose qui est bien observé dans l'histoire de l'univers. Il y a de moins en moins d'étoiles qui naissent. Donc on a plutôt une tendance d'évolution vers un refroidissement général et une baisse d'activité générale de l'univers, c'est-à-dire qu'on pourrait plutôt imaginer un univers peuplé de vide, avec quelques objets extrêmement massifs de type trou noir ou de type objets relativement inertes que seraient des naines blanches, des choses comme ça, avec quelque chose qui se fige avec une énergie très diluée, donc très froide, au sens où on entend la température cinétique. Donc plutôt que chaotique, je dirais figé, comme fin de l'histoire, entre guillemets.
Est-ce que ces deux situations que tu viens de citer à l'instant, le trou noir ou bien la naine blanche, une naine blanche est une étoile qui s'effondre sur elle-même, hein, dont la gravité devient, le poids devient énorme pour un volume relativement petit, est-ce que ces deux conditions que tu viens de citer remettent en question la physique, les lois physiques, et notamment celles qui concernent le chaos?
Elles ne remettent pas en question des lois physiques, elles représentent une physique plus complexe que d'autres physiques qu'on avait étudiées jusque-là pour les étoiles. Ça date quand même d'une cinquantaine d'années, la physique qui explique ce genre d'objet. Pour les naines blanches, par exemple, c'est la physique quantique qui va expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'une naine blanche. Je ne pense pas qu'on soit dans le même domaine que le chaos mathématique qu'on vient de décrire. C'est un autre domaine d'étude, on va dire. On ne va pas pouvoir utiliser les travaux de Poincaré sur les attracteurs pour une naine blanche, en tout cas pas à ma connaissance.
Ça veut dire qu'on arrive dans un autre domaine de la physique ?
Pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est où on rentre dans la physique en quittant un petit peu la mathématique de la théorie du chaos.
Pour rentrer dans un nouveau domaine à explorer ?
Oui, il n'est pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait quand même quelques années que les trous noirs sont une jolie question posée aux physiciens. On est sur des frontières de la connaissance, c'est clair. C'est d'autant plus excitant et intéressant. Mais oui, ça fait longtemps que c'est exploré, qu'il y a des observations, il y a beaucoup de théories. Des théories qui ne sont pas du tout encore abouties, finalisées, et qui sont en pleine effervescence.
Il y a peut-être une différence, et on la voit à cette occasion-là, entre l'astrophysique et puis la physique. C'est que l'astrophysique met en jeu des corps qui sont à une distance considérable et qui sont souvent des masses énormes, enfin bref, pour lesquelles on a du mal à pouvoir pratiquer une expérience. Et l'expérience est quand même un petit peu la base de la physique. On peut manipuler quelques particules dans un accélérateur, mais on ne peut pas manipuler une étoile ou modéliser une étoile. Est-ce que ce n'est pas un peu la limite, là, pour l'instant, de notre compréhension de ces phénomènes ?
Oui. L'astrophysique, contrairement à la physique, n'est pas une science expérimentale, absolument. C'est comme ça qu'on la présente quand on l'enseigne. C'est une science qui est dite observationnelle et pas expérimentale. Donc effectivement, ça veut dire que les méthodes vont être différentes. Par rapport à la physique, on ne peut pas se permettre d'essayer de faire des expériences, malheureusement. Après, il va y avoir quand même beaucoup en commun avec la méthode physique, bien sûr. En particulier, tenter de faire des modèles et tenter de les confronter à une observation. Mais c'est purement une observation et jamais, hélas, une expérience.
Bon, cela dit, là, il y a eu toujours un va-et-vient entre physique et astrophysique. Les deux se sont enrichis l'une l'autre, quoi. Si on comprend maintenant la relativité générale, elle vient d'études astronomiques, mais aussi d'études physiques. Donc les deux se sont enrichis. La relativité générale, elle a trouvé son champ d'application dans l'astronomie. Et on en a, après, retiré des enseignements énormes au niveau physique, je pense.
On vient d'évoquer à la fois la question d'une hypothétique origine de l'univers, la question d'une hypothétique fin de celui-ci. Ces deux questions posent en fait la question du temps et de l'articulation entre le chaos et le temps. De votre point de vue, du point de vue de l'astronomie, de l'astrophysique et peut-être des mathématiques aussi, est-ce que ces deux notions, ces deux concepts, temps et chaos, d'une certaine manière s'articulent ?
Dans le cadre mathématique de la théorie du chaos, oui, bien sûr. Le temps, c'est le, on va dire, le paramètre le plus important de ces théories. C'est-à-dire que au niveau même au niveau du système solaire, si on reprend sa stabilité ou au contraire sa chaoticité, on a un système qui est régulier à court terme, qui est moins régulier à long terme, qui est chaotique à long terme. Donc tout est une histoire d'échelle de temps. Donc on a des objets qui sont chaotiques à court terme, des objets qui sont chaotiques à beaucoup plus long terme. On mesure tous ces trucs-là, et le temps est vraiment le paramètre important de toute cette théorie, c'est sûr.
Et si les recherches venaient à considérer le temps tout à fait autrement, on a évoqué à plusieurs reprises dans cette conversation la théorie quantique, peut-être qu'elle a un autre regard ou une autre manière d'apprécier le temps. Alors est-ce que ça remet en question, en tout ou partie, l'idée qu'on peut se faire de la régularité, mais aussi de l'irrégularité, c'est-à-dire du chaos ?
Oui, il y a toutes les théories qu'on appelle la physique moderne, qui est la physique du XXe siècle, la mécanique quantique, mais quand même surtout la relativité restreinte et générale, reparle du temps et repose la question du temps de façon très différente de ce que notre expérience sensible nous en avait donné jusque-là. Et bien sûr, oui, ça veut dire que la théorie du chaos, il faut la replacer dans le cadre de ces deux théories-là, à partir du moment où on s'intéresse à des objets qui vont y être soumis. Et effectivement, c'est ce qui a été fait au XXe siècle. C'est-à-dire que l'astronomie ayant été le champ d'application de beaucoup de théories du XXe siècle, la relativité s'est appliquée aux positions des astres qui nous entourent, la mécanique quantique à la description de leur fonctionnement. Et donc le chaos s'est trouvé mêlé à ces nouvelles conceptions du monde qui nous entoure.
On a l'impression qu'à propos du chaos, on en a un petit peu fait le tour. Enfin, que ça a été quelque chose qui a été très à la mode à un moment, extrêmement investigué par les scientifiques. Et puis que maintenant, enfin, on a un petit peu fait le tour de cette question. Est-ce qu'il vous semble que ce soit vrai? Et sinon, bah, dans quel nouveau développement est-ce qu'on risque de voir des scientifiques prochainement revenir sur cette idée du chaos et peut-être faire de nouvelles découvertes?
Comme tout un tas d'idées scientifiques qui se retrouvent à être très opératives et très où on peut mettre plein de choses en place et qui sont en plus complètement, on l'a vu, enfin on a parlé un peu tout à l'heure, liées à des références mythiques ou mythologiques. Il y a des effets d'engouement, il y a des effets de gens qui saisissent à bras le corps des choses. En plus, moi je trouve que une des caractéristiques fondamentales du problème des trois corps et donc de l'approche, enfin du fait que ce soit un problème chaotique, c'est que les théories qu'il y a derrière, les objets qu'on rencontre mathématiquement, c'est des objets qui sont fondamentalement beaux. Plastiquement, c'est beau, et intellectuellement, c'est beau. Je sais plus qui c'est qui disait, à partir du moment où c'est beau, c'est utile, quoi. C'est-à-dire que on se rend compte que ça sert, que de rechercher dans ces trucs-là, dans ce genre de théorie, ça apporte plein de choses. Et donc le chaos en a fait partie. Je pense que c'est pas du tout terminé. C'est-à-dire que c'est un problème qui est extrêmement vieux, enfin vieux, qui a 400 ans, on va dire, ce problème des trois corps, par exemple. Et c'est un problème qui n'est pas encore résolu, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, par Poincaré a apporté une brique fondamentale à l'édifice, hein. Mais comme avant, d'autres personnes avaient apporté des briques fondamentales à l'édifice. Il y a eu d'autres briques dans les années 50. C'est encore un domaine, enfin, où il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Et en mathématiques, ces recherches sur le chaos prennent énormément de formes. J'aurais tendance à dire que ça a un rapport très, très fin avec ce que sont la nature même des nombres, la nature même de ce que sont les mathématiques. Dès qu'on commence à s'aventurer dans des territoires un peu moins stables, des mathématiques, on va tomber sur des problèmes chaotiques. Et c'est fécond. Voilà.
Julie. Ouais, moi je te dirais, bon, effectivement, c'est encore en recherche. Peut-être qu'au niveau de la société, c'est moins à la mode que les premières. Enfin, que la mode, ce sont des choses qui reviennent par définition. Mais pour revenir sur le thème des recherches sur le chaos actuellement en mathématiques, il me semble que l'outil informatique qui est en plein développement actuel permet d'explorer des zones du chaos qui n'avaient pas été explorées avant et de faire des recherches entre guillemets expérimentales sur un problème mathématique. C'est-à-dire que, de mon point de vue, l'informatique a ouvert le champ de l'expérience aux mathématiques, qui leur permet de faire des expériences sur des nombres et de regarder les résultats de l'expérience. Et sur le chaos, ça se voit, puisqu'on va voir des résultats de modélisation informatique qui vont donner des pistes sur le comportement de certains phénomènes.
Chaos et beauté. Tu parlais de beauté.
Ben ouais, parce que en fait, enfin le chaos, il y a un côté effectivement fin du monde, apocalypse, situation, enfin comme on voit le tsunami là, de situation catastrophique, etc. qui est abondamment repris aussi, mais il y a un côté aussi, de réalité pas facile à cerner. Donc de quelque chose qui est pas clair et net. Et donc de quelque chose qui va être un petit peu, enfin, je conseille à tous les gens d'aller voir des images de modélisation informatique de phénomènes chaotiques. C'est souvent à partir de lois extrêmement simples, on arrive à faire des figures extrêmement compliquées et bizarres et bizarres et belles, quoi. Donc.
Vous écoutiez Chaos Cosmique, second volet autour de la théorie du chaos, vu par Julie Patrice, astrophysicienne, et Franck Malige, enseignant en mathématiques, chercheur en astronomie. Chaos physique, chaos cosmique, retrouvez ces deux émissions ainsi que l'ensemble de la thématique chaos sur le site de Grenouille, radiogrenouille.com. Et pour prolonger cette réflexion, vous pouvez lire « Dieu joue-t-il au dé ?» Les mathématiques du chaos de Ian Stewart et Benoît Mandelbrot aux éditions Champ Flammarion.